الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Nous en sommes aujourd'hui au 18e péché qui est قذف المحصنات. القذف c'est la calomnie de fornication. Ici il a été cité المحصنات pour que ce soit fidèle au verset du Coran. Mais on va voir que cela concerne aussi bien les hommes que les femmes. Il n'y a pas de différence. Al-Qadfu dans la langue arabe, ça veut dire jeter, comme jeter une pierre. Et quand dans la langue arabe, on dit que quelqu'un a fait le Qadf sur une autre personne, c'est comme si, quand on jette une pierre, on blesse une personne, n'est-ce pas? On peut la blesser, comme on peut être la cause de sa mort et de toucher sa santé et son honneur. Donc de même, la calomnie est comme si la personne avait jeté avec sa langue un objet blessant sur la personne. Donc c'est pour imaginer comment est la calomnie. Mais dans la terminologie islamique et juridique, al-qadfu, ça a un sens bien précis. C'est le fait d'accuser un musulman ou une musulmane, saint d'esprit, pubère, libre et chaste, d'avoir commis la fornication ou de nier sa filiation, explicitement ou par une expression équivalente à l'explicite, sans produire pour cela une preuve légale. Certains l'ont expliqué aussi par l'accusation d'un musulman chaste d'avoir commis l'acte sexuel illicite ou la négation de son enfant par une parole qui implique cela selon l'usage, sans la présence de quatre témoins justes. Donc cette définition, elle exclut l'insulte simple, toute autre insulte dans laquelle il n'y a pas une accusation explicite de fornication. Donc les injures, toute autre injure aussi, qui ne sont pas liées à la fornication. Les allusions qui, selon l'usage, ne signifient pas clairement cette accusation-là, ne sont pas concernées. Ça ne veut pas dire qu'ils sont licites. C'est haram, ça peut être même des grands péchés, mais il n'y a pas pour cela une peine légale désignée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils peuvent être punis par des punitions que le juge voit approprié, qui s'appelle ta'zir. Pour constituer un qadf, il faut la présence de certains piliers indispensables. Premièrement, il faut l'auteur de l'accusation, le calomniateur. Il s'agit de la personne d'où émane cette accusation. Et il y a des conditions pour qu'il soit considéré comme un qadif et qu'il en subisse la peine. Premièrement, il doit avoir la raison. S'il n'a pas la raison, il n'est pas concerné. Deuxièmement, il doit être pubère. C'est-à-dire que les préadolescents non pubères ou les enfants, s'ils font le qadf, on les punit, le juge les punit. Il peut même leur faire un ta'zir, une punition qu'ils voient appropriée. Mais ils n'auront pas la punition du qadf. C'est pas considéré comme un qadf. Il faut aussi que la personne ne soit pas sous la contrainte, c'est-à-dire qu'il ait fait le qadf sous son libre arbitre. Il faut aussi qu'il ait connaissance du sens de la parole qu'il a prononcée. Il n'y a donc pas de peine légale contre l'enfant, contre le fou ou contre la personne contrainte. Mais ils peuvent avoir une sanction disciplinaire qui s'appelle ta'zir, désignée par le juge selon ce qu'il voit approprié. Parce qu'on ne peut pas non plus, sous prétexte qu'ils sont des enfants, les laisser dire ce qu'ils veulent. Si on ne les punit pas, ils vont répandre cette manière d'accuser les gens dans la société, et s'ils grandissent sur ce défaut, ils risquent de continuer à le pratiquer après leur puberté. Le deuxième pilier, c'est qu'il faut la personne accusée, le calomnié. Et la personne calomniée, pour que ce soit considéré comme du qadf, il doit être muhsan, chaste. Mais l'ihsan ici, il n'a pas le même sens que dans le chapitre de Zina. Vous vous souvenez, dans le chapitre de la fornication, on a dit l'ihsan, c'est celui qui a déjà été marié. Ici, ce n'est pas ce sens-là. Ici, l'ihsan, par rapport au qadf, c'est que la personne doit être musulman. Quand c'est contre un kafir, ce n'est pas considéré comme du qadf, mais c'est une injure, c'est haram, il peut y avoir une punition, mais il n'a pas la peine légale pour cela. Deuxièmement, il doit être libre. Troisièmement, il doit être pubère. La personne calomniée doit être pubère. Si c'est un enfant, c'est-à-dire que la personne calomniée, c'est une personne qu'on peut s'imaginer qu'elle commette ce péché. Si c'est un enfant qui connaît rien à tout cela, ça n'a pas de sens. Ça ne touche pas à son honneur parce que tout le monde sait que c'est faux. Donc les savants sont d'accord sur le pubère et ils divergent sur l'enfant Moumayyiz, qui distingue mais qui n'est pas encore pubère. Et le plus juste, c'est qu'il est concerné aussi, parce que ça touche à son honneur. Et qu'il est possible qu'un enfant qui n'est pas encore pubère mais qui distingue puisse commettre ce péché. L'autre condition, c'est qu'il soit saint d'esprit. Quand on dit qu'il doit être connu pour sa chasteté, c'est-à-dire qu'il n'a pas été jugé au préalable comme fornicateur, ou bien que même s'il n'a pas été jugé, mais c'est connu. Si c'est connu clairement que c'est un fornicateur, dans ce cas-là, si quelqu'un le traite de fornicateur, il n'a pas fait de qadf. Même s'il s'est repenti, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de le faire. C'est-à-dire la personne qui l'insulte de fornicateur alors qu'il s'est repenti de la fornication, il fait un péché. Il commet un péché, mais il n'a pas commis le péché du qadf. Il n'a pas calomnié d'avoir forniqué, parce que c'est vrai, il l'a fait. Vous comprenez la différence? Donc il peut être puni, pareil, par une punition disciplinaire, un tarzir, car ça reste une insulte envers un musulman. Pareil, même si c'est un kafir, le juge peut ordonner de lui donner une punition éducative à cause de son insulte. Donc si une de ces conditions fait défaut, la peine légale du qadf ne s'applique pas, mais à la place, il y aura un ta'zir, c'est-à-dire une sanction disciplinaire. Le troisième pilier, c'est la formulation de l'accusation. Donc on a dit, il faut l'accusateur, le calomniateur, le calomnié, et la troisième, c'est la formulation de l'accusation, du qadf. Et ceci est prouvé de deux manières. Soit par le témoignage de deux personnes musulmanes probes, soit par la reconnaissance de la personne elle-même. Il reconnaît l'avoir dit. Et cette accusation, elle peut être formulée de différentes manières. Soit de manière explicite, soit de manière implicite, par allusion. Quand c'est de manière explicite, comme le fait de dire « t'es un fornicateur », tu as forniqué, tu es un fils de fornication, alors dans ce cas-là, on ne peut pas accepter du calomniateur une excuse. Oui, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne voulais pas dire cela, je voulais juste dire que c'est une mauvaise personne. Non, c'est considéré clairement comme une accusation de fornication à tort, s'il n'a pas ramené les témoins, bien sûr. Donc cela entraîne la peine légale sans divergence. Alors que le qadf implicite, par allusion, c'est une parole ou une phrase qui peut avoir plusieurs sens, comme « tu n'es pas chaste, tu es un pervers, moi, en tout cas moi, je ne suis pas un fornicateur », par exemple, quelqu'un qui dit ça, dans le sens « toi tu en es un ». Alors, on examine l'intention du calomniateur, on lui demande son intention. Il dit « non, mon intention c'était juste de l'insulter, non pas de le traiter de fornicateur ». On lui demande de jurer sur cela. Il doit jurer, parce que là il s'agit de l'honneur d'un musulman, on ne peut pas s'amuser. S'il jure, alors on accepte sa parole, parce que ce n'est pas une parole explicite, elle est implicite. Mais le juge, à cause de son insulte, il va lui donner une sanction disciplinaire, un tazir. Il peut le faire fouetter, il peut le mettre en prison, il peut l'interdire, je ne sais pas, de certains postes, pour l'éduquer. Par contre, Il y a un point ici essentiel. Si la personne ment, lui, il voulait l'insulter de fornicateur, mais il ment, il dit non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il encourt un châtiment douloureux auprès d'Allah, car il a juré en mentant et il a préféré ne pas subir la peine ici, mais il subira la punition de son péché dans l'au-delà, de ce grand péché. Donc c'est très grave. Il vaut mieux qu'il reconnaisse, qu'il dise effectivement, j'ai dit cette parole et je l'ai visée pour cela. Et après, il peut dire, je regrette par exemple, je m'excuse auprès de la personne. La personne, si elle l'excuse, il n'aura pas de punition, parce que c'est un droit qui lui est alloué. Il peut lui pardonner. Mais s'il veut s'enorgueillir, non, ou il cherche des moyens de nier, il veut reconnaître son tort, ni il veut être puni. Donc il joue. Il joue avec les mots, il joue avec les situations, juste pour ne ni subir les fouets, ni perdre la face. Donc c'est un orgueilleux. Cette personne, c'est un orgueilleux. En plus du fait d'être un calomniateur, d'être un grand pécheur et d'être un pervers auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il peut tromper les gens, il peut tromper les juges. Mais il ne peut pas tromper Allah. Auprès d'Allah, c'est un pervers dont sa probité n'est plus valide. Il n'est plus digne de confiance. Il a beau dire ce qu'il veut, il a beau enjoliver comme il veut, il a beau avoir tout le monde avec lui, il a beau avoir mis le doute au juge, et bien sûr les juges, ils ne pratiquent pas les peines, sauf si on est presque sûr. Donc, le hadith idra'ul hudud bish-shubuhat, éviter de faire pratiquer, appliquer les peines, ne serait-ce que quand il y a un doute. Donc le juge, s'il a un doute, il ne va pas faire pratiquer la peine. Donc si c'est un bon parleur, il peut essayer d'éviter la peine. Mais il n'évite pas la colère d'Allah. Il n'évite pas son jugement auprès d'Allah. Faut pas croire que parce que le juge l'a, entre guillemets, innocenté, qu'auprès d'Allah, il est innocent, si vraiment lui, il a fait cela. Sauf il a réussi à, entre guillemets, à sauver la face et à ne pas subir la peine dans ce monde. Mais auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah connaît mieux la réalité de sa parole et de sa situation et de ce qu'il a voulu dire ce jour-là. Après cela, on va voir les conditions d'application de cette peine. Si l'accusateur ne produit pas 4 témoins probes, des gens justes qui ont vu de leurs yeux, au même moment, au même endroit, dans la même situation, explicitement l'acte de fornication, alors, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, dans Surat An-Nur, s'il ne ramène pas les 4 témoins, voilà ceux qui sont auprès d'Allah, les menteurs. Allah Ta'ala a traité cette personne de menteur, il l'a jugé comme pervers et il a interdit d'accepter son témoignage à jamais. Et il a ordonné de lui donner 80 coups de fouet. Puisqu'il s'amuse à attaquer l'honneur des musulmans. Même si c'est vrai, peut-être que c'est vrai ce qu'il dit. Mais il n'a pas produit 4 témoins. Donc auprès d'Allah, c'est un menteur. Vous dites, comment il a dit la vérité auprès d'Allah, c'est un menteur? Oui. Parce que dire une chose contradictoire à la législation, c'est un mensonge. Quand quelqu'un fait de la médisance sur un musulman, est-ce qu'il ne dit pas des choses vraies? Mais c'est un péché. Donc il ne faut pas croire que dire la vérité est toujours bien. Voilà la chose à comprendre. Il y a des vérités qui sont interdites d'être divulguées en islam. Car elles nuisent à la religion, à l'honneur des musulmans. L'islam a autorisé de mentir pour réconcilier entre les musulmans. Alors pourquoi toi tu vas aller dire des choses qu'Allah ne t'a pas demandé de dire? Il t'a même ordonné de les cacher. Deuxième condition, c'est que la personne accusée, il doit demander son droit. Car c'est un droit humain. S'il y renonce, s'il lui pardonne, ou s'il meurt avant de le réclamer, la peine tombe selon la majorité des savants. Et comme on a dit, il faut que l'accusation soit établie, l'établissement de l'accusation. C'est-à-dire, ou bien l'aveu du calomniateur, ou bien le témoignage de deux musulmans justes attestant de cette calomnie. Maintenant que l'on a vu cela, il est clair que le qadf, la calomnie, l'accusation d'un musulman chaste de fornication, est un grand péché, et il fait partie des grands, des plus grands péchés, et qu'il est strictement interdit, et c'est un péché majeur, car Allah Ta'ala a maudit celui qui accomplit cet acte, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité dans les 7 péchés pernicieux. Donc c'est pour montrer la gravité de la langue. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit: Inna alladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adhabun 'azim. Ceux qui accusent les femmes chastes, innocentes et croyantes sont maudits en ce bas monde et dans l'au-delà, et ils auront un châtiment énorme. Ici, inna alladhina yarmuna al-muhsanat. Ici, il est parlé des femmes. Il y a deux manières de comprendre ce verset chez les savants. La première manière, c'est innal ladina yarmuna al-anfusal muhsanat. Ceux qui accusent les âmes chastes, c'est-à-dire hommes et femmes, et non pas seulement les femmes. Ou bien, effectivement, ici, Allah Ta'ala a cité les femmes, mais une forme spécifique de femme, c'est-à-dire le plus grand des plus grands péchés dans la calomnie, qui sont les femmes chastes, rafilates, innocentes, c'est-à-dire qui n'y pensent, qui n'ont même pas, ce n'est même pas passé par leur esprit de faire ce péché. Mu'minat, croyante. Et ici, celle qui est visée, c'est Aïcha, radiallahu anha, la mère des croyants, qui était loin, très loin même de penser à cela. Et ils l'ont accusé à tort, les hypocrites. Et certains croyants, malheureusement, ont répété cette accusation. Donc, ici, Allah Ta'ala a montré le plus grave degré du qadf, de la calomnie de fornication. Car même dans la calomnie, il y a des degrés. Donc si la calomnie, elle touche une des mères des croyants, c'est, on va le voir après en détail, c'est de la mécréance majeure. Car la personne qui a fait ça, il a fait quoi? Il a démenti le Coran. Car le Coran a innocenté Aïcha radiallahu anha. Et le Coran a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'épousait que des femmes pures. Comme on va le voir plus tard. Et toutes femmes qui ont les mêmes caractéristiques, chastes, innocentes et loin de ce péché, et croyantes. C'est pire d'accuser des femmes comme ça. Accuser même une femme qui est, on va dire entre guillemets, qui a des mœurs dévoyées, c'est déjà un grand péché. Mais accuser des femmes chastes, innocentes, croyantes, pieuse, c'est encore pire. Donc vous voyez que même dans un grand péché, il y a des degrés de gravité. Donc la peine légale pour la personne qui se rend coupable de ce péché, c'est 80 coups de fouet. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدًا. Ceux qui accusent les femmes chastes, puis qui ne ramènent pas 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet. Donc on a dit tout à l'heure que le verset était compris de deux manières. Ceux qui disent l'anfus al-muhsanat, c'est-à-dire les âmes chastes et non pas les femmes. Et les autres qui disent que ça concerne ici les femmes, c'est-à-dire le pire, la pire manière de commettre ce péché. Mais il y a unanimité que les hommes sont concernés aussi, car il n'y a pas de différence. Les conséquences juridiques du qadf, c'est que quand ceci est appliqué, l'accusateur est fouetté 80 coups, son témoignage est rejeté définitivement et il est jugé fasiq, pervers. C'est-à-dire qu'il n'est plus considéré comme un musulman de confiance. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit: et n'acceptez plus jamais leur témoignage, car ceux-là sont les pervers. Puis les savants ont divergé. Si une personne qui a commis le qadf, qui a commis la calomnie, l'accusation de fornication, et il se repent. Il se repent sincèrement auprès d'Allah. Est-ce qu'après cela, son témoignage redevient recevable? et la qualification de pervers disparaît de lui? Ils sont d'accord sur la qualification de pervers disparaît de lui. Mais ils divergent à ce que son témoignage sera encore recevable un jour. Selon Malik, Shafi'i et Ahmed, son témoignage sera recevable. Et selon Abu Hanifa, son témoignage ne sera plus jamais recevable. Et car il a compris la fin du verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit « Sauf ceux qui se repentent », que cela revient juste à la caractéristique de la perversité et non pas au rejet du témoignage. Ceci revient à une divergence dans la compréhension de certaines règles grammaticales. Est-ce que quand il y a une exception, cela englobe toutes les caractéristiques citées avant ou bien seulement la dernière citée? Donc vous voyez les conséquences d'une divergence grammaticale, qu'est-ce que ça donne dans les règles religieuses. Après avoir dit cela, nous allons lire les textes que l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, a cités. Il a commencé par citer la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans sourate An-Nur. إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Donc le verset qu'on a lu tout à l'heure déjà. Ceux qui accusent les femmes chastes, innocentes et croyantes sont maudits en ce bas monde et dans l'au-delà, et ils auront un châtiment immense. Donc là, on voit que c'est un grand péché, ils sont maudits. Et ici, lu'inu, mabni lil majhoul, on ne connaît pas le sujet. Lu'inu, ils ont été maudits. C'est pour montrer la généralisation, c'est-à-dire que Allah les maudit, les anges les maudit, les croyants les maudissent. Tout le monde les maudit, pour montrer la gravité. Puis, il a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sourat An-Nur aussi. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً. Et ceux qui accusent les femmes chastes sans produire quatre témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet. Puis il a cité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Évitez les 7 péchés pernicieux, les 7 péchés destructeurs. Et il mentionna parmi eux قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, le fait d'accuser à tort les femmes chastes, innocentes et croyantes, rapporté par le Bukhari et Muslim. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith rapporté aussi par le Bukhari et Muslim, le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Donc, quelqu'un qui, avec sa langue, blesse ses frères musulmans n'est pas un bon musulman. Et le hadith de Mu'adh, le hadith de Tirmidhi, qui est un hadith acceptable, quand Mu'adh a dit, est-ce que Allah va nous reprendre même sur ce que nous disons avec nos langues? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, que ta mère te perde. Les gens seront-ils jetés sur leur visage dans le feu le jour de la résurrection pour autre chose que les récoltes de leur langue? Puis le cheikh a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. Et ceux qui nuisent aux croyants et aux croyantes sans qu'ils l'aient mérité portent sur eux une calomnie et un péché évident. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accuse son esclave de fornication subira la peine le jour de la résurrection, sauf s'il est tel qu'il l'a dit. Donc on a dit parce que le qadf, il n'est valide que si il est contre une personne libre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de ta'zir. Il aura une punition, mais qui ne sera pas une peine légale. Quand il y avait l'esclavage, bien sûr, maintenant il n'y a plus. Si l'esclave fait du qadf, il a la moitié de la punition d'un homme libre. Il sera fouetté 40 coups de fouet. Puis l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, a fini ce chapitre en disant, quant à celui qui accuse la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, après la descente de sa disculpation du ciel, est un mécréant démentant le Coran et il est donc mis à mort. Effectivement, on va lire ici les versets qui montre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a clairement innocenté notre mère Aïcha radiallahu anha. Dans sourate An-Nur, verset 11, Allah tabaraka wa ta'ala dit, إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe parmi vous. Ne pensez pas que cela soit un mal pour vous, au contraire, c'est un bien pour vous. Chacun d'eux aura ce qu'il a acquis comme péché, et celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un châtiment immense.
Donc Allah Ta'ala l'a nommé ici ifk, une calomnie. Donc ça prouve que c'est faux.
Donc ceci suffit déjà pour innocenter notre mère Aïcha radhiyallahu anha.
Puis dans le verset 12, Allah Ta'ala a dit: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
Pourquoi lorsque vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas eu une bonne opinion d'eux-mêmes et n'ont-ils pas dit c'est une calomnie évidente?
Donc Allah tabaraka wa ta'ala montre ici que la seule position correcte était de nier cette accusation. C'est une preuve claire que c'était un mensonge. Et vous verrez dans ce verset, Allah Ta'ala dit que les croyants et les croyantes n'ont-ils pas eu une bonne opinion d'eux-mêmes? Car les croyants et les croyantes ne sont que comme un seul corps. Donc en accusant un autre croyant, c'est comme s'ils avaient une mauvaise opinion de leur propre personne.
Puis dans le verset 13, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit:
لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ.
Pourquoi n'ont-ils pas apporté quatre témoins à son sujet? Puisqu'ils n'ont pas apporté les témoins, ceux-là sont auprès d'Allah les menteurs.
Donc Allah Ta'ala déclare ici clairement que ceux qui ont accusé notre mère Aïcha radhiyallahu anha sont des menteurs.
Puis Allah a confirmé dans le verset 14 et 15:
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ.
Sans la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde en ce monde et dans l'au-delà, un immense châtiment vous aurait touché pour ceux dont vous vous êtes entretenus lorsque vous colportiez de vos langues et disiez de vos bouches ceux dont vous n'aviez aucune science. Donc, il a déterminé qu'avoir dit cette accusation est une parole sans science, donc un mensonge.
Puis, dans le verset 16,
وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ.
Pourquoi lorsque vous l'avez entendu, n'avez-vous pas dit, il ne nous appartient pas d'en parler, gloire à toi, c'est une calomnie énorme.
Donc Allah Ta'ala l'a nommé calomnie énorme. Regardez depuis le début combien de fois Allah Ta'ala a innocenté Aïcha radhiyallahu anha.
Puis dans le verset 17,
يَعِذُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ.
Allah vous exhorte à ne jamais revenir à une chose semblable si vous êtes réellement croyant.
Puis dans le verset 26, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit:
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
Les femmes mauvaises sont pour les hommes mauvais, et les hommes mauvais sont pour les femmes mauvaises, et les femmes vertueuses pures sont pour les hommes purs, et les hommes purs et vertueux sont pour les femmes pures et vertueuses. Ceux-là sont innocents de ce qu'ils disent, ils auront pardon et noble subsistance.
Donc Allah Ta'ala a jugé clairement, ils sont innocents de ce qu'ils disent.
Il parle ici de qui? De la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la pure vertueuse qui est l'épouse du plus pur et des plus vertueux des hommes.
Donc il y a unanimité que toute personne qui remet en cause l'innocence de Aïcha radhiyallahu anha de cette fausse accusation a démenti le Coran, car ce Coran a été révélé et établi, qui sera récité jusqu'à la fin des temps pour prouver de son innocence. Donc il a démenti le Coran, il est sorti de l'islam selon l'unanimité des savants et il a commis un acte d'apostasie manifeste.
Abdullah ibn Abbas a dit:
celui qui accuse Aïcha radiallahu anha après qu'Allah l'ait innocenté est un mécréant. Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu a dit, nul ne doute de l'innocence de Aïcha si ce n'est un mécréant. Saïd ibn al-Musayyib a dit, celui qui dit au sujet de Aïcha, ce qu'ont dit les gens de la calomnie a certes mécru. L'imam Malik a dit, celui qui insulte Aïcha est mis à mort, car il a démenti le Coran. L'imam Ahmed a dit, celui qui accuse Aïcha est un mécréant et le Coran le dément. L'imam Shafi'i a dit, les musulmans sont unanimes sur la mécréance de celui qui accuse Aïcha après son innocence. Abu Hanifa a dit, celui qui accuse Aïcha est un mécréant pour avoir démenti le texte explicite du Coran. Et les savants après eux ont répété ces paroles de différentes manières. Donc on a vu aujourd'hui dans ce chapitre la gravité des péchés de la langue, et un des pires péchés de la langue, c'est le qadf, de calomnier un musulman ou une musulmane chaste de fornication. Car le qadf atteint l'honneur des gens, leur dignité, cela nuit à la sécurité morale de la société, c'est l'un des crimes de la langue les plus dangereux, et sa peine a été légiférée pour préserver les honneurs, contenir les langues et protéger la pureté sociale. Beaucoup de gens aujourd'hui croient qu'ils peuvent, parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, délier leur langue et accuser une personne de fornicateur ou des autres mots comme pro, etc., les insultes, et qu'auprès d'Allah, ils peuvent s'en sortir. On a vu aujourd'hui la gravité de ce péché et son statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.